Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Haggah, page 16, Daf Tetzain. Bonne écoute et bon limoud.
D'employer mon honneur. Maïdarash. La Gemara demande qu'est-ce qu'il a interprété. En d'autres termes, comment est-ce qu'il a fait pour faire attention de ne pas contempler là où on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit de contempler la Shrina, la présence divine. La Gemara répond Amar Rabba Barhana, Amar Rabbi Yochanan. Le pasuk dit dans Devarim Ve'ata Meribot Kodesh. Et au moment de Kabbalat Torah, Akash Bochou est venu avec une partie de ses myriades d'anges saints. Le terme de Ve'ata, qui est un terme araméen, peut être aussi compris d'une autre manière. On peut l'interpréter comme venant de la racine de Hot, qui veut dire signe. La Gemara interprète ici Hot hu birbava shelo. Il a un signe parmi ses myriades. En d'autres termes, on peut reconnaître le signe là où est Akash Bochou. Rabbi Akiva s'est bien gardé de ne pas contempler à cet endroit. Rabbi Abba Amar dit Dagul Mervava. Rabbi Akiva a interprété le pasouk de Shir HaShirim qui dit qu'il est distingué parmi ses myriades. Alors là aussi, le terme de Dagul peut être interprété un peu différemment. Dugmahu Birvava Shelo. Il a un échantillon parmi sa myriade. En d'autres termes, donc, parmi les Malachim, on peut voir un échantillon de si l'on peut dire, Akadosh Baruch Hu. Rabbi Akiva s'est bien gardé de ne pas contempler plus loin. Là aussi, ce sont ces mêmes Sukkim qui ont permis à Rabbi Akiva de ne pas se tromper comme Acher l'a fait en voyant un ange, Metatron, que Acher a pris pour Akadosh Baruch Hu. Rabbi Akiva a bien compris que peut-être il y avait certaines ressemblances avec Akadosh Baruch Hu, comme nous voyons de ce pasouk qu'il a un échantillon, mais il savait bien qu'Akadosh Baruch Hu est inaccessible. Beresh Lakish Amar dit Hashem Tsevakot Shemo. Le nom d'Hashem est en fait le Dieu des armées. Ce terme est interprété ici Adon Hu Batsava Shelo. Il est maître parmi son armée. En d'autres termes, de la même manière que le maître est séparé de son armée, il est à part. Alors là aussi, Akadosh Baruch Hu est à part. Donc Akadosh Baruch Hu, Rabbi Akiva a bien compris qu'il ne doit pas contempler au-delà des Malachim. Rabbi Abba Amar Rabbi Yochanan disent d'un autre pasouk de Malachim. Il s'agit ici d'Elio Anavi qui est arrivé au Mont Sinaï pour avoir une vision de Kadosh Baruch Hu. Alors le pasouk décrit qu'il y avait, il y a eu un vent fort et puissant qui est passé. Il s'agissait d'une légion d'anges qui causait ce vent. Une voix céleste lui est parvenue et lui a dit Lo Beruach Hashem, Kadosh Baruch Hu ne se trouve pas dans ce vent. Ve'acharuach Rash, après ce vent, il y a eu un tremblement. Il s'agissait ici de Malachim qui causait les tremblements. Une voix céleste lui est parvenue, lui a dit Lo Berach Hashem, Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas dans ce tremblement, donc parmi ces Malachim. Ve'achar Ra'ash Esh, après ce tremblement, il y a eu un feu. Ce sont des Malachim qui causaient ce feu. Une voix céleste lui a dit Lo Ba'esh Hashem, Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas dans ce feu. Ve'achar Ha'esh Kol Demamadaka, après ce feu, il y a eu un bruit de chuchotement. Il s'agissait de Malachim qui chantait les louanges d'Akadosh Baruch Hu en chuchotant, par crainte d'Akadosh Baruch Hu. Là, la Gemara nous ramène le pasouk en fait qui a été dit avant les psukim que nous venons de citer, Veine Hashem Aver, voici qu'Hashem passe. En fait, la Gemara nous le cite ici pour bien nous montrer que c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu est passé, comme nous pouvons le déduire des psukim qui suivent. En tout cas, donc, là, encore une fois, nous voyons un signe où Akadosh Baruch Hu se trouvait. Rabbi Akiva fait très attention de ne pas contempler cet endroit. Nous avons fini le shiur de Chagiga Daf Tetvav. Nous commençons le shiur de Chagiga Daf Tetzain à 9 lignes du haut de la page. Tanu Rabbanan, o Chachamim o Sinod Zun Breta. Shisha Dvarim Nemru Beshedim, il y a 6 choses qui ont été dites à propos des démons. Shlosha Kemalach HaSharet, 3 choses. À propos de 3 choses, nous pouvons les comparer à des anges, ou Shlosha Kemne Adam, mais ils ont 3 choses qui le comparent aux êtres humains. Shlosha Kemalach HaSharet, il y a 3 choses qui le comparent aux anges. Yeshlaim Kenafaim Kemalach HaSharet, ils ont des ailes comme les anges, Vetasim Misofa Olam Veatsofo, et peuvent voler d'un bout du monde à l'autre, Kemalach HaSharet, comme les anges, Veodim Ashatid Liot Kemalach HaSharet, ils connaissent le futur comme les anges. La Gemara demande, Yodim Salkadatar, est-il possible de concevoir qu'ils connaissent le futur, alors que finalement ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu qui connaît le futur? La Gemara répond, Ela Shomim, Mechorea Parot Kemalach HaSharet, ils écoutent derrière le rideau céleste comme les anges, et c'est ainsi qu'ils connaissent le futur. En fait, c'est-à-dire qu'ils entendent le futur de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Il y a trois choses qui le comparent aux êtres humains. Ils mangent et boivent comme les êtres humains. Ils se multiplient comme les êtres humains. Et meurent comme les êtes humains. Il y a six choses qui ont été dites à propos des êtres humains. Il y a trois choses qui le comparent aux anges. Il y a trois choses qui le comparent aux animaux. Il y a trois choses qui comparent les êtres humains aux anges. Il y a trois choses qui les humains aux Ils possèdent la compréhension comme les anges, ou malachin bekomaz kufa que malach hasharet, et marchent debout comme les anges, ou mesaprim belachon lakodesh que malach hasharet, et en parlant, ils peuvent employer même le lachon lakodesh, c'est la langue biblique, comme les anges. C'est-à-dire pas comme les animaux qui ne peuvent pas du tout parler. Shlosha ke behemah, les hommes ont trois choses qui les comparent aux animaux. Ochlim veshotim ke behemah, ils mangent et boivent comme les animaux, ou parim verabim ke behemah, et se multiplient comme les animaux, ou mutim Rei kibema. Et ils éliminent leurs déchets comme les animaux. Kol amistakel be'arba dvarim ratui lo shelo ba la'olam. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit que tout celui qui regarde, qui contemple quatre choses, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne vienne pas dans ce monde. La Mishnah précise qu'il s'agit de regarder ce qui est au-dessus du monde, c'est-à-dire au-dessus des malachim qui s'appellent Chayot HaKodesh, ou ce qu'il y a en dessous du monde. C'est-à-dire ce qui soutient le monde. Nous avons vu dans la Gemara plus haut que c'est les bras d'Akadosh Baruch Hu qui soutiennent le monde. Et ce qu'il y aura dans le futur et ce qu'il y a eu dans le passé avant la création du monde. La Gemara demande Bishlama male mala, male mata, male achor. On comprend bien qu'on n'a pas le droit de regarder ce qui est en haut, c'est-à-dire au-dessus des Chayot HaKodesh. Et ce qui est en dessous du monde, les bras d'Akadosh Baruch Hu qui soutiennent le monde. Et ce qu'il y aura dans le futur, le Chayé. Ça, on comprend bien qu'on n'ait pas le droit de regarder des choses pareilles, parce que regarder ce qui concerne la présence divine, c'est-à-dire c'est un manque de respect envers Akash Baruch Hu, voir le futur aussi quelque chose d'impossible pour l'homme, ce n'est pas bien pour l'homme de le savoir. Et là, le Fanim, mais par contre, voir ce qu'il y a eu avant la création du monde, qu'est-ce que ça nous dérange? Maïdehava, ce qu'il y a eu fait partie du passé, qu'est-ce qu'il y a de mal à propos de cela? La Gemara répond, Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar, Damre Tarvayu, disent tous les deux, Machal, le Melech Basar Vadam, on peut comparer cela à un roi humain, Shamar la Vadav, qui aurait dit à ses esclaves, Benouli Palterin Gnolim, Ala Ashpa. Construisez-moi un grand palais sur un tas d'immondices. Halchou ou Banulo, ils sont partis, ils lui ont construit, En retourno chez le Melech, Lazkir, Shem Ashpa. Le roi ne veut évidemment pas qu'on mentionne que son palais est construit sur un tas d'immondices. Là aussi, si on veut parler de la période qui précède la création de ce monde, finalement, nous pourrons arriver à croire qu'il y a quelque chose qui n'était pas bien à l'époque, ce qui a poussé Akadosh Baruch Hu à créer ce monde comme nous l'avons aujourd'hui. C'est aussi un manque de respect de dire que Akadosh Baruch Hu a eu un changement de décision, ce qu'il y avait avant n'était pas bien, et c'est pourquoi il a fait ce que nous avons aujourd'hui. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit que tout celui qui ne fait pas attention à l'honneur de son créateur, il aurait mieux valu qu'il ne vienne pas dans ce monde. Maihi, la Gemara demande à quoi fait la Mishnah, à quoi fait-elle allusion. La Gemara répond, Rabbi Abba Amar, Zeh Mistakel Bekeshet, la Mishnah nous parle de celui qui contemple l'arc-en-ciel. Rabbi Yosef Amar, dit Zéover Avera Besseter, il s'agit de quelqu'un qui commettrait un péché en cachette, donc il pense que Akadosh Baruch Hu ne peut pas le voir là où il se cache, il ne fait donc pas cas de l'honneur de son créateur. Mistakel Bekeshet, la Gemara explique finalement qu'est-ce qu'il y a de mal de contempler l'arc-en-ciel, dirtiv, parce que le Pasuk dit dans Echezkel, il s'agit ici de la vision d'Akadosh Baruch Hu qu'il a eue. Le pasuk dit que Maré Akeshet Asheriye Banan Beom Akeshem, comme l'aspect de l'arc-en-ciel qui se trouverait dans les nuages un jour de pluie, Ken Maré Anoga Saviv, ainsi était l'aspect de l'éclat de lumière qui entourait l'homme qui lui était apparu dans cette vision, Hu Maré Dmut Kvod Hashem, ceci est l'aspect de la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, puisque cet arc-en-ciel est un rappel à la gloire d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est décrit par Yechezkel, c'est un manque de respect de contempler l'arc-en-ciel. Rabbi Yosef Amar dit, Zeh Haover Avera Beseter, c'est celui qui commet un péché en cachette, que de Rabbi Yitzhak. Cela correspond à ce que Rabbi Yitzhak nous a enseigné, d'Amar Rabbi Yitzhak. Kola Ober Avera Beseter, tout celui qui commet un péché en cachette, Kilu Dochek Ragla Shrina, c'est comme s'il repoussait les pieds de la présence divine, Shenema, comme le Pasuk dit, Ko Amar Hashem, ainsi a dit Akosh Baruch Hu, Hashamaim Kisi, le ciel est mon trône, Vehaaret Hadom Raglai, et la terre est mon repose-pied. Nous voyons pour ainsi dire que les pieds de la présence divine reposent sur terre. Donc finalement, s'il fait une avère en cachette en disant que Akosh Baruch Hu ne me voit pas ici, il repousse la présence divine de cet endroit, pour ainsi dire, donc il repousse les pieds d'Akosh Baruch Hu. Et ni, la Gemara demande, ce n'est pas vrai. Veha'amar Rabbi Ila Hazaken, Rabbi Ila Hazaken a enseigné la chose suivante. Im roe adam sheitromit gaber alav.
Si une personne voit que son mauvais penchant s'efforce de lui faire commettre des péchés et n'arrive pas à le surmonter, il lève le makom shel makirimoto, il a calé dans un endroit où on ne le connaît pas, vilbash shorim vit atef shorim, et qu'il n'a qu'à s'habiller de noir et s'envelopper de noir. À ce moment-là, son orgueil se trouvera brisé, il aura plus de chances de pouvoir surmonter son mauvais penchant. Par contre, s'il n'arrive quand même pas à le faire, v'yasema shel libo chafetz, il n'a qu'à faire ce que son cœur lui demande. En d'autres termes, il succombera à cette tentation. Puisque c'est dans un endroit où on ne le connaît pas, personne ne prêtera attention à lui. Et ainsi, il ne profanera pas le nom divin en public. Parce que personne ne verra qu'il est en train de faire une avéra. Le nom d'Hachem ne se trouvera pas profané. Donc nous voyons donc qu'il est bien il est possible de faire une avéra en cachette. Ce n'est pas aussi grave que la Gemara l'a décrit plus haut. La Gemara répond, la cachette, ce n'est pas une question. Ha de matzekayef le itre. Quand la Gemara dit plus haut que celui qui faute en cachette, il est considéré comme quelqu'un qui repousse les pieds de la présence divine, c'est dans un cas où il peut surmonter son itzehara. Ha de lomati kayef le itre. Par contre, dans la Gemara plus loin, qu'on vient de voir, il s'agit d'un cas où il ne peut pas surmonter son itzehara. À ce moment-là, il vaut mieux qu'il fasse une avéra en cachette que de le faire en public et de profaner comme ça le nom d'Hachem. Derash Rabbi Yehuda bar Rabbi Nachmani meturgemane de Resh Lakish. Rabbi Yehuda bar Nachmani, qui était l'interprète de Resh Lakish, a enseigné la chose suivante. Kol ha-mistakel b'shlosha dvarim enav keot. Tout celui qui contemple les trois choses qui vont suivre, son acuité visuelle diminuera. Il s'agit de Bakeshet, l'arc-en-ciel, ou Benassi et le roi, ou le ministre, c'est-à-dire il s'agit ici du chef spirituel du clan Israël, ou Bekoanim, et celui qui contemple les Koanim. La Gemara explique. Bekeshet, celui qui contemple l'arc-en-ciel, mérite de voir son acuité visuelle diminuer, dirtiv, parce que le pasouk dit, il s'agit du pasouk de Yecheskel qu'on a vu plus haut, Kemare Akeshet Asheriye Be'anan Biyom Akeshem, comme l'aspect de l'arc-en-ciel qui se montre dans les nuages un jour de pluie, etc. Hu Mare Dmut Kovod Hashem, cela aussi est l'aspect de la gloire divine. Alors, puisque, comme le Maharsha explique, il est impossible de voir la présence d'Akosh Baruch Hu et rester en vie, celui qui voit quelque chose, donc l'arc-en-ciel qui rappelle la gloire d'Akosh Baruch Hu, mérite que sa vue diminue. Benassi, celui qui contemple le roi, le chef spirituel, aussi mérite que sa vue diminue, dit-il, parce que le pasouk dit dans Bamidbar, c'est un Akosh Baruch Hu qui a demandé à Moshe Rabbeinu de nommer Yoshua pour le succéder. Le pasouk dit, Venatata mehotra alav, et tu mettras de ta gloire sur lui. Cette gloire que Moshe Rabbeinu a eue de la part d'Akosh Baruch Hu l'a donc transmise à Yoshua, qui était le futur chef spirituel d'Akosh Baruch Hu. Donc effectivement, celui qui contemple, qui regarde le chef spirituel du clan Israël, finalement il regarde en quelque sorte un peu de la gloire divine, et c'est pourquoi il mérite aussi que sa vie diminue. Hamistakel bekohanim, celui qui contemple les kohanim, il s'agit ici Bezman Shebet Amigdash Kayam, quand le Bet Amigdash existait, Shayom Dim Alduchanan, quand ils étaient debout sur leur estrade, et ils bénissaient les Bnei Israël, ils faisaient donc la Birkas Kohanim en prononçant le nom sacré. Ils utilisaient le nom de Yud Ke Vav Ke, c'est au Bet HaMikdash qu'ils avaient le droit de le faire. À ce moment-là, la présence divine résidait entre leurs doigts quand ils élevaient le main pour faire Birkas Kohanim. Celui qui regarde les Kohanim à ce moment-là, donc manque de respect envers la gloire divine et mérite que sa vue baisse. Derash Rabbi Yehuda bar Nachmani, Rabbi Nachmani meturgemane de Resh Lakish. Rabbi Yehuda bar Nachmani, l'interprète de Resh Lakish, a enseigné la chose suivante. Maïdirtiv, que veut dire le pasouk dans Micha qui dit Alta aminu berea, ne croyez pas votre le camarade Altif de Khouba Alouf, ne faites pas confiance à l'officier. Alors, donc Rabbi Yehuda Bar Nachman explique, Imyo Malacha Yetzara Chato, si le Yetzara, le mauvais penchant, te dit, commets un péché, Akash Baruch Hu Mochel, et Akash Baruch Hu te pardonnera, c'est-à-dire tu pourras faire tshuva par la suite, Altamen, ne lui fais pas confiance. Chez Nehemar, parce que le pasuk dit, Altamen Berea, ne fais pas confiance aux camarades, Ve'en Rea, Ela Yetzara, le thème de Rea ne s'applique qu'au Yetzara, chez Nehemar, comme le pasuk dit dans Bereshit. C'est-à-dire Bereshit, qui est Tserlev Adam Ra, parce que le penchant du cœur de l'homme est fondamentalement mauvais. Nous voyons que le terme de Ra s'applique pour le Tserra. Ven Alouf et la Kojbaohu, et quand le Pasuk parle d'officier, le Pasuk fait allusion à Kojbaohu. Shneemar, comme le Pasuk dit dans Yirmiyahu, c'est Yirmiyahu qui parle au nom d'Akojbaohu, il dit au Bnei Israël, je souhaite que vous ayez fait Tshuva, et à ce moment-là vous diriez, Alouf Nouraï Ata, tu es l'officier de ma jeunesse. Donc on parle, le terme de Alouf s'applique à Kosh Baruch Hu. Shema Tomar Mimeidbi, et si tu me demandes qui est-ce qui témoignera contre moi, qui est-ce qui dira que j'ai commis des péchés, Ragma répond, Avne Beto Bekorot Beto Shladam Hem Meidim Bo. Ce sont les pierres de la maison et les poutres de la maison de l'homme qui témoignent contre lui. Shenema, comme le Pasuk dit dans Chavakouk, il s'agit de quelqu'un qui construit sa maison en volant. Le pasouk s'exclame en disant qui even mikir tizak, parce que la pierre construite dans le mur criera, je suis volé, vechafis me'et ya'anena, et le chevron de la charpente lui répondra, moi aussi je suis volé. Donc nous voyons que les différentes parties de la maison de l'homme témoignent contre lui. Vechachamim omrim, et les chachamim disent, nishmato shel adam eidabo, c'est l'âme de la personne, de l'homme, qui témoignera contre lui. Shenema, parce que le pasouk le dit dans Micha, toujours le même passage qu'on a vu plus haut. Mishochevet rekecha, shmor pitrepicha. De celle qui repose dans ton sein, garde les portes de ta bouche. En d'autres termes, le passage veut dire, ne dévoile pas tes secrets, même à ta femme. La Gemara interprète ici le passage différemment. Ezoui davar shochevet becheko shel adam. Quelle est la chose qui repose constamment dans le sein d'une personne? Have omer zuneshama. Tu diras donc qu'il s'agit de l'âme. Il faut faire attention de ne pas dévoiler des secrets devant elle, parce que la Gemara comprend ici qu'elle va tout dévoiler. Rabbi Izrika Amar a dit, Shne Malachi Asharet Hamlavim Oto, les deux anges qui accompagnent l'homme constamment, Hem Meidimbo, c'est eux qui témoigneront contre lui. Shne Ma, comme le Pasuk dit dans Teilim, Ki Malacha Vetzavelach, Lishmorcha Bechol Derechecha. Parce qu'Akosh Baruch Hu ordonne à des anges de l'accompagner pour le garder dans tous ses chemins, pour ne pas qu'il trébuche. L'Agma interprète ici le terme de Lishmorcha, ne voulant pas dire protéger, mais surveiller. En d'autres termes, donc ces deux Malachim, Akosh Baruch Hu a ordonné de Malachim d'accompagner l'homme pour le surveiller. On comprend bien donc à la suite de cette surveillance, c'est eux qui témoigneront de toutes ces actions qu'il a fait tout au long de sa vie. Il faut lire ici Veyeh Shomrim, il y a d'autres qui disent de la manière suivante, Evarav chez la dame Edimbo, ce sont les membres de la personne qui témoignent contre lui. Chez Nehemar, comme le Pasuk dit dans Yeshaya, Ve'atem Edai Neum Hashem, Ve'anikel. Et vous êtes mes témoins, dit Hashem, et moi je suis le Dieu. Le passage veut dire ici, vous pouvez témoigner que tout ce que vous ai annoncé par le moyen des prophètes, c'est accompli. L'Agma interprète ici que vous serez mes témoins pour témoigner de vos actions. Nouvelle Mishnah. Yossi ben Yoezer Omer, Shelo Lismor. Yossi ben Yoezer dit qu'on n'a pas le droit de faire la smicha panu yom tov, c'est-à-dire quand on offre le korban chagiga ou le korban olatreya, on n'aura pas le droit de faire la smicha, qui est le fait de s'appuyer de toutes ses forces sur la tête de l'animal avant de l'offrir. Yosef ben Yochanan Omer, Lismor, lui dit qu'on a le droit de faire la smicha pendant Yom Tov. Yoshua ben Prachia Omer, Shelo Lismor. Il s'agit maintenant, Yoshua ben Prachia, qui était de la génération suivante, lui disait qu'on n'a pas le droit de faire la smicha. Nitai Harbeli Omer, qui était son contemporain, Lismor, on a le droit de faire la smicha pendant Yom Tov. Dans la génération suivante, Yehuda ben Tabai Omer disait, Shelo Lismor, on n'a pas le droit de faire la smicha pendant Yom Tov. Shimon ben Shatach, qui était le contemporain d'Yehuda ben Tabai, dit, Lismor, on a le droit de faire la smicha pendant Yom Tov. Shmaya Omer, la génération suivante, donc Shmaya, disait qu'on a le droit de faire la smicha. Avtalian Omer, Shelo Lismor, on n'a pas le droit de faire la smicha pendant Yom Tov. Hillel ou Menachem, lo nechleku. Hillel et Menachem, quand ils étaient tous les deux en fonction, n'ont pas discuté à ce sujet. Tous les deux étaient d'accord qu'on a le droit de faire la smicha pendant Yom Tov. Yatsa Menachem. Menachem a quitté Hillel. La Gemara expliquera où est-ce qu'il est parti. Nichnas Shamay. Shammai l'a succédé. À ce moment-là, Shammai Omer Shelo Lismor lui disait qu'on n'a pas le droit de faire la smicha Panayom Tov. Hillel Omer Lismor. Hillel, par contre, lui pensait qu'on a le droit de faire la smicha. Nous tournons la page à Daf Tetzayin Amoud Bet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Qu'on a le droit de faire la smicha. Nous tournons la page à Daf Tetzayin Amoud Bet. La Mishnah nous a donc parlé de 5 couples de Tanaïm qui vivaient à 10 générations différentes qui ont discuté à propos du même sujet. Alors la Mishnah précise, Harishonim Hayunisim, les premiers de chacun de ces couples étaient des princes ou des chefs spirituels. Il s'agit donc de Yossi ben Yoezer, Yoshua ben Perachia, Yehuda ben Tabai, Shmaya et Hillel, ou Shnim Lahem Avbedin. Et les deuxièmes de chacun des couples étaient des chefs de tribunal. Il s'agit donc de Yossi ben Yohanan, Nitai Harbeli, Shimon ben Shattach, Avtalion et Shammai. La Gemara commence. Tanu Rabbanan. Le Chachamim ont enseigné dans une Braïta. Shlosha Mizogot Harishonim, Shamru Shelo Lismor. Les trois des premiers couples qui ont dit qu'on n'avait pas le droit de faire la Smicha Panayom Tov. Il s'agit donc de Yossi ben Yoezer, Yoshua ben Perachia et Yehuda ben Tabai. Ou Shnai Mizogot Acharonim, Shamru Lismor. Et les deux des derniers couples qui ont dit qu'on avait le droit de faire la smicha panayom tov, il s'agit donc de Shmaya et de Hillel, Hayunusim, c'était des chefs spirituels du clan Israël, Ushnim Lahem, Avot Beddin. Et les deuxièmes étaient des chefs du tribunal, Dibre Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir, qui rejoint donc l'avis de la Mishnah. Vachachamim Omrim disent, Yehuda ben Tabai, Av Beddin, était un chef du tribunal, Veshimon ben Shattach Nasi, c'était lui le chef spirituel, donc, à l'envers de ce qu'on a dit dans la Mishnah. La Gemara demande, Mantana Leha, qu'est-ce qui a enseigné ce qu'on a vu par la suite de Tanu Rabbanan? Parce que le Chachamim enseigne dans une Braïta, Amar Rabbi Yehuda ben Tabai. Rabbi Yehuda ben Tabai a dit la chose suivante, Ere ben Echama. Je souhaite de voir la consolation. En fait, ce qu'il a voulu dire, je souhaite de ne jamais voir de consolation, mais la Gemara a changé sa phrase pour ne pas prononcer de malédiction. Alors, je souhaite de voir la consolation. Imlo harakti et zomem. Si je n'ai pas tué de témoin comploteur, il s'agit de témoins qui auraient témoigné à faux contre quelqu'un, comme quoi il aurait commis un péché qui mérite la peine de mort. Le tribunal découvre par la suite qu'il s'agissait en fait d'un faux témoignage par d'autres témoins qui viennent dire ces témoins en question étaient avec nous à l'heure et à la date dite dans un endroit éloigné de celui où ils prétendent avoir vu cette personne commettre ce délit. Ils n'ont donc pas pu le voir. L'alakha est que les témoins comploteurs reçoivent la peine qu'ils voulaient infliger à l'innocent. Par contre, si la peine avait déjà été infligée à l'accusé, le tribunal ne les punira pas. Alors, Rabbi Yehuda ben Tabai nous dit, il jure s'il n'a pas tué un témoin comploteur, le hotzi miliban shel tzidukim, pour contrer l'avis des tzidukim, qui interprétait la Torah différemment que les Chachamim, Shayu Omrim, il disait, En edim zomemim neragim, achi hareganidon. Que les témoins comploteurs ne sont pas tués, on ne leur inflige pas donc la peine qu'ils voulaient infliger à l'innocent, jusqu'à ce qu'on tue cet accusé. En fait, donc, selon eux, ils interprètent cette loi de la Torah comme étant une espèce de vengeance contre celui qui a mis à mort un innocent, alors que selon la Torah, comme l'explique le Chachamim, il s'agit d'une peine qui est désignée à empêcher les faux témoignages. Amar lo Shimon ben Shattach, Shimon ben Shattach lui a répondu, Ere ben Echama, je verrai la consolation. Là aussi, Shimon ben Shattach est en train de se maudire, comme nous l'avons expliqué plus haut. Imlo shafarta damnaki, si tu n'as pas versé du sang innocent. Share amru Chachamim, parce que le Chachamim m'ont dit, En edim zomemim neeragim, les témoins comploteurs ne sont pas tués s'il s'agissait d'un témoin qui visait à mettre à mort un innocent, jusqu'à ce qu'on découvre en fait que les deux étaient des témoins comploteurs par un témoignage. Et ils ne méritent pas la flagellation s'il s'agit s'ils complotaient une peine de flagellation contre un innocent, jusqu'à ce que les deux soient définis comme étant des témoins comploteurs. Et ils ne paieront pas d'argent s'il s'agissait d'un témoignage qui visait à faire payer de l'argent à un innocent, jusqu'à ce que les deux soient définis comme étant coupables. Et là, Yehuda ben Tabaï a fait tuer un seul témoin comploteur. Miyad kibel alav Yehuda ben Tabaï. Alors tout de suite, Yehuda ben Tabaï a pris sur lui. Sheinon moré alacha ela bifnei Shimon ben Shatach. Il ne tranchera de halakha que devant Shimon ben Shatach, de façon à être corrigé par lui s'il se trompe. Kol yamav shel Yehuda ben Tabaï, tous les jours de la vie de Yehuda ben Tabaï, à la suite de cette histoire, hayam eshtateach al kivro shel oto harug. Yehuda ben Tabaï allait se prostrer sur la tombe de ce témoin qui avait été tué, qui avait été mis, pour implorer le pardon. Hayah kolo nishma, et on entendait sa voix, kisforim ha'am lomar shekolo shel harugu. Les gens qui entendaient cette voix pensaient qu'il s'agissait de la voix de cette personne qui avait été tuée, donc si l'on peut dire du fantôme de cette personne qui se plaignait d'avoir été tuée. Amar lahem kolihu. Yehuda ben Tabaï leur a dit, en fait, c'est ma voix. Tedou, sachez-le, shel machar humet ben kolo nishma. Parce qu'en fait, demain, c'est-à-dire par la suite, il mourra, je mourrai, et on n'entendra plus de voix. Donc ne pensez pas que ces lamentations proviennent de la tombe de cette personne quand je m'approche de cette tombe. Parce que, comme l'explique Tosfot, une fois que je meurs, que je mourrai, je serai encore plus proche de sa tombe, et donc on devra entendre sa voix encore plus forte. Donc en fait, il s'agit donc de ma voix. Amar les Ravach, Haberé des Rabbah les Ravashi. Ravach, le fils de Rava, a posé la question suivante à Ravashi. En fait, ce n'est pas une preuve, le fait que Yehuda ben Tabaï meurt, qu'on n'entende plus ses lamentations de cette tombe. Vedilma Piyus et Païsé. Peut-être qu'après sa mort, il l'a apaisé. Obedinatave. Ou bien, peut-être qu'il l'a traîné en justice devant le tribunal céleste. Et c'est pourquoi on n'entend plus les lamentations. En fait, néanmoins, on devra quand même faire confiance à ce que Yehuda ben Tabaï disait lui-même. Nous voyons toutefois dans cette braïta que Yehuda ben Tabaï, avant de s'être engagé à ne juger qu'en présence de Shimon ben Shatach, se permettait de formuler une opinion, de trancher un jugement sans consulter Shimon ben Shatach. La Gemara demande, Maneha, quel est l'auteur de cette braïta? Yamar bishlama Rabbi Meir. On comprend bien si tu dis que c'est l'avis de Rabbi Meir de Amar qui disait Shimon ben Shatach avait din, que Shimon ben Shatach était le chef du tribunal, Rabbi Yehuda ben Tabaï Nasi, et Rabbi Yehuda ben Tabaï était le chef spirituel du clan Israël. Haynu deka moré alacha bifnei Shimon ben Shatach. On comprend bien que Rabbi Yehuda ben Tabaï se permettait de trancher un jugement quand Shimon ben Shatach était disponible sans le consulter. Parce que, en fait, le chef spirituel est plus important que le chef du tribunal. Et là, Yamart Rabbanan. Par contre, si tu dis que l'auteur de cette braïta sont Rabbanan, d'Amré Yehuda ben Tabaï Avedin, qui disait que Yehuda ben Tabaï était le chef du tribunal Shimon ben Shatach Nasi, et Shimon ben Shatach était le chef spirituel du clan Israël, Avedin Bifne Nasi Mimore Alacha, est-il possible, est-il concevable que le chef du tribunal tranche un jugement quand le chef spirituel du clan Israël est disponible et sans le consulter? Donc en fait, comment se fait-il que Yehuda ben Tabaï aurait tranché un jugement sans demander l'avis de Shimon ben Shatach? La Gemara répond, l'eau. En fait, on ne comprendra pas comme ça, on pourra toujours dire que l'auteur de cette braïta est son Rabbanan. Maïki bel alav de Kamar, qu'était cet engagement que Yehuda ben Tabaï a pris sur lui de ne pas trancher de jugement sans l'avis de Shimon ben Shatach? La Gemara répond, l'Itztaroufé. C'est-à-dire pour se joindre à d'autres juges. Dafilu Itztaroufé namilom Itztarifna. Même se joindre à d'autres juges quand Shimon ben Shatach ne sera pas disponible, je ne le ferai pas pour trancher un jugement sans que Shimon ben Shatach soit présent. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Yatsa Menachem v'nichnas Shamay. Menachem a quitté le tribunal et Shamay est rentré et l'a succédé. La Gemara demande, Leheran Yatsa, où est-ce que Menachem est sorti, où est-ce qu'il est parti quand il a quitté le tribunal? La Gemara répond, Abaye Amar Yatsa le Tarboudra. Il a quitté le tribunal pour joindre la mauvaise société, en d'autres termes, il est devenu hérétique. Rabba Amar, Yatsa l'avodat Amelech, il a quitté le tribunal pour se mettre au service du roi. Tanya l'Ameachil, il a été enseigné ainsi dans une braïta. Yatsa Menachem l'avodat Amelech, Menachem a quitté le tribunal pour aller servir le roi. Veyatsu imo shmonim zugot talmidim, et sont sortis avec lui 80 paires d'élèves. Le Bushim Sirikon, qui était habillé d'habits royaux, à l'époque il s'habillait de soie brodée d'or. Le Tiferet Israël explique dans la Mishnah que Menachem a quitté le tribunal pour se mettre au service du roi. Il s'agissait du roi Ordos, Hérode. Il pensait par ce fait pouvoir annuler les mauvais décrets contre les Bnei Israël. Mais en fait, il a quitté quand même l'étude de la Torah. Amar Rav Shaman Baraba, Amar Rav Yochanan. Leolam al tehe shvut
kala beinecha. Fais attention à ce que jamais un décret des Chachamim concernant le Shabbat ou le Yom Tov soit léger à tes yeux. On appelle cela un shvut parce que finalement ces interdits concernent l'arrêt de travail, ces arrêts de travail commandés par les Chachamim. On les appelle donc shvut. On appelle donc shvut tous les interdits de Shabbat ou de Yom Tov. Shehare smicha ena la mishum shvut. Parce que cette smicha n'a été interdite qu'à cause d'un shvut, d'un interdit de Chachamim concernant le Shabbat. En effet, les Chachamim ont fait un décret donc d'interdire de chevaucher un animal. Par extension, toute utilisation d'un animal a été interdite le Shabbat. Et c'est pourquoi donc on n'a pas le droit de s'appuyer sur l'animal, même si c'est pour faire la smicha. Justement, donc c'est un interdit léger, ce n'est qu'un interdit de Chachamim. Venir le kubak de l'ador et les grands des générations précédentes ont discuté à ce sujet. Nous voyons donc l'importance de cet interdit de Chachamim. Leur discussion est non pas, comme on pourrait le comprendre, est-ce que les Chachamim ont le pouvoir de faire un décret d'interdire quelque chose qui a été commandé par la Torah, mais plutôt comme la Gemara dans Betzal explique, dans Daf Chav, que la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel est à savoir si la smicha doit être immédiatement suivi de la shrita, ou bien est-ce qu'on peut faire la smicha avant. Donc selon l'avis de Bet Shammai, on peut faire la smicha avant de faire la shrita, même un jour avant. C'est pourquoi, puisqu'on peut le faire avant Yom Tov, et aucune raison de le faire pendant Yom Tov. Par contre, selon l'avis de Bet Hillel, puisque cette smicha, la smicha doit être immédiatement suivie de la shrita, il n'y a pas le choix, on est obligé de le faire pendant Yom Tov. Mais comme le souligne le Meromé Sadeh, il est vrai que cette discussion est à savoir si la smicha doit être immédiatement suivie de la shrita ou non, mais concernant Yom Tov, leur discussion fondamentale est aussi concernant Yom Tov. Parce que s'il n'y avait pas cet interdit de Yom Tov, on n'aurait pas empêché la personne de faire la smicha juste avant la shrita, si par exemple il n'avait pas eu le choix de le faire avant. La Gemara demande, Pshita, il est évident que c'est ça leur discussion. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan a eu besoin de nous préciser que le Shvut est important parce qu'ils ont discuté à propos d'un interdit de Chachamim. La Gemara répond, Shvut mitzvah itzitarech aleh. Là, en fait, ce que Rabbi Yochanan a voulu nous enseigner, que même un Shvut qui implique une mitzvah, là aussi c'est important, c'est-à-dire que les Chachamim ont le pouvoir même d'empêcher l'accomplissement d'une mitzvah s'il y a un décret à ce sujet. Et donc c'était ça le chidouche de Rabbi Yochanan. La Gemara demande, Hanam Pshita. Ça aussi c'est évident, puisque on sait très bien que à propos de cette smicha, il s'agit de faire une mitzvah. Si un décret de Chachamim touche cette mitzvah, donc c'est un décret de Chachamim concernant la mitzvah et qui empêche de faire cette mitzvah. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan a eu besoin de le préciser? La Gemara répond, Le afuke miman de amar, besmicha gufa plige. Rabbi Yochanan vient exclure ou contrer l'opinion de celui qui avait expliqué, toujours dans la Maseret Betza, que la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel était à propos de la smicha elle-même. En effet, dans la Gemara Betza d'Afrav, Rabbi Yitzhak explique que la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel est à savoir si pour le Korban Shlamim obligatoire, il faut faire la smicha ou non. C'est à propos de l'interprétation de différents psukim. Si on explique comme ça, finalement, leur discussion est à savoir si pour le Korban Chagiga, donc, qui est un shlamim obligatoire, est-ce qu'il faut faire la smicha ou non. Et par conséquent, selon l'avis de Bet Shammai qui dit que la smicha n'est pas obligatoire pour le Korban Chagiga, il est évident qu'on n'a pas le droit de le faire Yom Tov. Il ne s'agit pas ici d'un shvut de mitzvah, mais plutôt c'est un shvut facultatif. Même si on veut l'accomplir cette smicha d'une manière facultative, en tout cas Yom Tov, on n'aura pas le droit. Par contre, selon l'avis de Bet Hillel, cette smicha est obligatoire, par conséquent, on aura le droit de le faire Yom Tov. Voir le Shaar HaMelech, dans le Chot Maaseh HaKorbanot, Perek Gimel, Halakha Yud Gimel. Kamash Malan, c'est pourquoi Rabbi Yochanan nous enseigne ici, Beshvut Hu de Plige, que la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel est à propos d'un Shvut, donc à propos d'un interdit de Chachamim concernant le Shabbat et le Yom Tov, c'est-à-dire, puisque la smicha est obligatoire pour le Korban Chagiga, qui est un Korban Shlamim obligatoire. Donc, leur discussion ne se situe qu'au niveau de ce qu'on a dit plus haut, c'est-à-dire à savoir si la smicha doit être immédiatement subie de la shrita ou non. Finalement, donc, il s'agit ici d'un shvut de mitzvah, c'est-à-dire dans le cas où il n'aurait pas fait cette smicha avant Yom Tov, est-ce qu'il pourra le faire pendant Yom Tov ou non. Donc, selon l'avis de Bet Shammai, il n'aura pas le droit de le faire, puisqu'il aurait pu le faire la veille théoriquement. Et donc, finalement, il s'agit d'un shvut de mitzvah, si c'est tellement important, est-ce que ça repousse le Yom Tov. Amar Rami Bar Chama, Shma Amina, on peut comprendre de toute cette discussion, Smicha B'chol Kocho Bainam,
quand on fait la mitzvah de smicha, il faut s'appuyer de toutes ses forces pour accomplir cette mitzvah. Dis al-kadatach lo bainan b'chol kocho. Parce que si tu pensais qu'on n'a pas besoin de s'appuyer de toutes ses forces pour accomplir cette mitzvah de smicha, maïkavid, finalement, qu'est-ce qu'il fait de mal? Il n'est pas en train de s'appuyer entièrement sur la bête, il ne se sert pas de cet animal. L'ismor n'a qu'à donc accomplir cette mitzvah de smicha. Même panayom tov. Donc là, c'est pourquoi on est obligé de dire que la smicha, pour accomplir cette mitzvah, il faut s'appuyer de toutes ses forces. La Gemara demande, metive. La Gemara pose une question à partir d'une braïta. Il est écrit au début de Parashat Vaikra, d'abord Bnei Israël, etc. Besamach. Parle au Bnei Israël, celui qui va offrir le Corban, il devra faire la smicha, s'appuyer sur le Corban. Alors, la braïta interprète de cette manière, Bnei Israël somchim, puisque dans le pasouk on parle de Bnei Israël, donc on parle de mâle, d'hommes. Alors c'est les Bnei Israël, les hommes, qui peuvent faire cette mitzvah de smicha, ven benot Israël somchot, mais les femmes ne peuvent pas accomplir cette smicha, c'est-à-dire. Elles n'ont pas cette obligation et non plus elles ne peuvent pas accomplir cette smicha. Rabbi aussi, Rabbi Shimon Omrim, il faut lire ici Rabbi Shimon, Benot Israël somchot reshut. Les femmes, donc les Bnei Israël, peuvent accomplir cette mitzvah d'une manière facultative. Amar Rabbi aussi a dit, Sachli Abba Elazar m'a raconté, Pamachat hayalenu egel shel zivchei shlamim, une fois il est arrivé qu'on avait un veau qui était destiné à être offert en tant que korban shlamim. Et quand, avant de l'offrir, nous l'avons amené à l'Ezrat Nashim, où les femmes se trouvaient. Les Samchou à l'Avnashim, et les femmes se sont appuyées sur cet animal pour faire la mitzvah de smicha. Et non pas parce que la mitzvah de smicha s'accomplit par les femmes. Et là, kedel asot nachadwach nashim, mais on l'a fait pour faire plaisir aux femmes. Le Shahar Ameler que nous avons cité plus haut, donc dans Ilchot Masa Korbanot, Pere Gimel, Halakha Yud Gimel, l'explique l'avis de Rashi. Explique ici, il s'agissait d'un korban qui n'appartenait pas aux femmes. Et en fait, quand Abba Elazar a fait faire la smicha aux femmes appartenant à sa famille, en fait, il l'avait fait, comme la Braïta le précise bien, pour leur faire plaisir. Mais en tout cas, il n'avait même pas la mitzvah de le faire, même à titre facultatif. Ce que Rabbi aussi a prouvé par cette histoire, c'est que si, pour un korban qui ne l'appartient pas, ils peuvent faire la smicha, même s'ils n'ont pas cette mitzvah de le faire à titre facultatif, c'est parce qu'on ne craint pas qu'en le faisant, ça porte atteinte à l'honneur du korban. On ne craint pas que les gens prennent exemple et se servent d'un korban pour leur propre travail. Et donc, par le même ordre d'idée, on peut comprendre que pour un korban qui leur appartient, ils peuvent faire la smicha à titre facultatif. Alors que le premier auteur de la Braïta disait qu'il n'avait pas il ne pouvait pas le faire à titre facultatif, et d'ailleurs c'était interdit de le faire, de peur que les gens prennent exemple et viennent manquer de respect envers le korbanot, l'utiliser pour leurs propres besoins. La Gemara demande, si tu pensais que pour accomplir la mitzvah de smicha, il fallait s'appuyer de toutes ses forces sur l'animal, pour faire plaisir aux femmes, Est-ce qu'on peut transgresser l'interdiction de se servir d'un animal désigné comme korban pour ses propres besoins en s'appuyant sur lui? Et la lave, shmamina, c'est pourquoi nous serons obligés de déduire de là, lo bainan b'chol kocho, que pour accomplir cette mitzvah de smicha, on n'a pas besoin de s'appuyer de toutes ses forces. Donc en fait, quand ils ont fait faire la smicha aux femmes, ils n'ont rien fait puisqu'ils ne s'appuyaient pas de toutes ses forces. Ça ne s'appelle pas se servir d'un animal désigné comme korban. L'agma répond, l'olam emalecha bainan b'chol kocho. Toujours pourrais-je te dire que pour accomplir la mitzvah de smicha, il faut s'appuyer de toutes ses forces. De amar lehu akfeyadaihu. Ici, il s'agit d'un cas où quand il a dit aux femmes de faire la smicha, il leur a dit, élevez vos mains, c'est-à-dire ne vous appuyez pas de toutes vos forces. Comme nous l'avons expliqué plus haut, qu'il s'agissait d'un korban qui ne leur appartenait pas, c'est pour ça qu'ils n'avaient même pas cette mitzvah à titre facultatif. Mais en général, on est tenu de s'appuyer de toutes ses forces pour accomplir la mitzvah de smicha, et s'il s'agit d'un korban qui appartient à une femme, elle devra s'appuyer de toutes ses forces, elle va accomplir cette mitzvah d'une manière facultative. La Gemara demande, Yachi, l'omipne chez smicha benashim, etc. Si c'est comme ça, quand Abel Hazar se justifie en disant, ce n'est pas parce qu'il y a une mitzvah de smicha par les femmes, mais on l'a fait pour leur faire plaisir, enfin pourquoi il a besoin de se justifier, tipuk le denal smicha klal? En fait, il aurait pu dire tout simplement qu'il n'y avait pas de smicha, puisqu'il ne s'était pas appuyé de toutes leurs forces. Rabbi répond, Amar Rabbi Ami, Chada veod kamar. En fait, Rabbi Abba Elazar a voulu donner deux justificatifs pourquoi il a fait faire cette smicha par les femmes. Chada delet al smicha klal. Premièrement, parce qu'en fait, il n'avait pas fait de smicha, puisqu'il ne souhaitait pas appuyer de toute leur force. Ve'od keden lasot nachat ruach nashim. Et en plus, ils l'ont fait pour faire plaisir aux femmes. Et donc, ce n'est pas considéré comme un manque de respect envers le korban. Amar Rav Papa, Shma Mina Tzdadim Asurim. Rav Papa dit qu'on peut comprendre de cette discussion que quand les Chachamim ont interdit de se servir d'un animal pendant Shabbat, même les côtés de la bête, même les endroits donc qui ne sont pas destinés à chevaucher, sont aussi interdits à l'utilisation. Et c'est pourquoi, selon l'avis de Beit Shammai, on n'aura pas le droit de faire la Smicha Panayim Tov, puisqu'on s'appuie sur la tête de l'animal, bien que ce ne soit pas un endroit destiné à chevaucher dessus. Dis al-Kadatar, Tzdadim Mutarim. Est-ce que si tu pensais qu'on a le droit de se servir des côtés de la bête qui ne sont pas destinés à être chevauchés dessus, l'ismor, il faut lire, selon le Bach, on saute le prochain mot, il n'a qu'à faire la Smicha Panayim Tov, puisqu'il n'y a aucun décret de Chachamim à ce sujet. Et la lave, Shmamina, Tzdadim Asurim. N'est-ce pas donc qu'on peut comprendre de là que les côtés de la bête font partie aussi de ce décret et on n'a pas le droit de se servir de n'importe quel de l'animal, n'importe quel côté, et donc selon la Beit Shammai, on n'a pas le droit de faire la smicha panayim tov. Nous passons à Daf Yud Zayin Amud Alef.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.